Bon, bah, bonjour à tous, merci d'être venus à cette conférence de 14h sur les catastrophes. On va parler catastrophe, Titanic, invasion, autre catastrophe. Autant vous dire que ce n'est pas forcément un sujet gai. Et pourtant dans toutes ces catastrophes, parfois l'espoir renaît. Et autour de notre table, nous avons quatre auteurs et on va plus spécifiquement citer les livres dont on va parler, mais complètement en face de moi, donc à votre gauche et à ma droite, Christophe Lambert, avec
notamment...
Bonjour. Non, vous voulez dire quelque chose ?
Non, juste un test.
D'accord, juste pour tester. Qui vient de sortir Titanic 2012, qui a aussi sorti La Reine de Vengeance, c'est ça. Zulu Kingdom, La Fille de mes rêves, Vegas Mito, La Brèche, Le Dos au Mur, enfin... et bien d'autres. Juste à côté, Alain Grousset, avec notamment Sens interdit, mais aussi 10 façons d'assassiner notre planète. On pourra peut-être aussi en parler. J'avais repéré aussi La Guerre des Livres, très bon livre, jeunesse que je recommande. Juste à ses côtés, Jean-Pierre Andrevon, avec notamment, on va vous en parler, Le Monde Enfin. on en parlera, mais il y a aussi Un Horizon de Cendres, Les Guerriers de la Nuit, voilà, pas mal de choses. Et puis Vincent Gessler avec Cygnis et Mimosa, ce qui va plutôt nous intéresser sur cette table ronde, évidemment, c'est Cygnis, puisque ça se passe après l'apocalypse, entre guillemets. On va peut-être s'arrêter sur chacun un peu les catastrophes et pourquoi ça les a intéressés de les mettre en scène, puisque ce qui nous intéresse quand même, c'est de voir quand même la catastrophe comme élément narratif. Pourquoi est-ce qu'on met en scène une catastrophe avant, après ou pendant. Christophe, pourquoi toi tu t'es intéressé au Titanic ?
Alors la genèse du livre, si je me souviens bien, j'étais à une édition des Utopiales à l'époque où c'était encore à Poitiers, donc il y avait le Futuroscope. Je me baladais dans le Futuroscope en me demandant à quoi pourraient bien ressembler les parcs d'attractions du futur. Et le film de Cameron allait sortir ou était sorti, je ne sais plus. Et j'imaginais une attraction avec la poupe du navire qui se soulève et des spectateurs sanglés à déarmer, une sorte de grand mythe spécial Titanic. Et de fil en aiguille, je me suis dit, non, ce qui serait vraiment fun, ce serait plutôt de construire une sorte de Disneyland ou de parc d'attractions directement sur le site de l'épave, donc à 3700 mètres de fond. Et là, je suis parti dans une sorte de scénario à la Jurassic Park où un milliardaire... construit un bouclier protecteur, restaure la proue du navire et inaugure le complexe 100 ans jour pour jour après la catastrophe, mais comme toutes les consignes de sécurité n'ont pas été respectées, comme dans La Tour Infernale, autre grand film catastrophe qui est repassé, que j'ai revu la semaine dernière, eh bien à nouveau la nature va prendre sa revanche sur l'arrogance humaine 100 ans jour pour jour après la catastrophe. Mais le point de départ, voilà, on me demande où trouvez-vous vos idées. Les idées sont partout. Là, c'était au Futuroscope à Poitiers. Et pourquoi le Titanic, thématiquement, c'est un événement que je trouve vachement riche, puisque c'est un peu le vrai début du XXe siècle, même si c'est 1912. Mais c'est la fin du matérialisme, de la révolution industrielle, de la foi en la toute-puissance. De la machine et de l'homme horloger voilà, qui prend sa revanche sur la nature. Là, l'homme s'est pris une bonne claque. Et puis, ce qui est génial, c'est que c'est vraiment la société victorienne, quoi, avec les nantis qui sont en première classe, les troisième classe qui rament au fond, à qui on ferme les grilles dès que l'eau commence, qui écope. Donc, pour cette espèce d'instantané fulgurant de la société de l'époque, En plein naufrage, ça m'a toujours fasciné. J'ai eu un coup de cœur pour cet événement historique, de même que j'ai eu un coup de cœur pour Fort Alamo aussi. Dans les deux cas, on se demande si on était à la place des protagonistes, qu'est-ce qu'on ferait. C'est assez facile de se projeter. Enfin, est-ce que si j'étais sur le Titanic, je me comporterais comme un gentleman jusqu'au bout ou est-ce que j'essaierais en douce de me glisser dans un canot de sauvetage comme le fait le patron de la White Star Line Company là, qui se glisse subrepticement dans un canot pour échapper à la mort. Bon, tranquillement assis ici, c'est facile d'avoir l'air chevaleresque et de dire je resterai jusqu'au bout. une fois qu'on est face au mur, face à l'océan, peut-être les choses sont plus compliquées que ça.
L'eau est froide, quoi.
L'eau est froide, ouais. Donc, pour toutes ces raisons, à la fois le côté spectaculaire, le côté humain, le côté résonance sociale, c'est un sujet qui me fascine.
Et par rapport à... Oui, vas-y.
Ah, moi, j'avais une question à Christophe Lambert. Est-ce que tu as vu déjà les deux tournois de Mosinor?
Non, j'ai pas dû voir ça. J'en ai vu d'autres sur la fille Luc Besson, notamment.
Ouais, exactement. C'est quelqu'un qui fait des tournements sur Internet avec des voix un peu de travers. Et il a fait notamment Titanic Park. C'était dans ses premiers détournements autour de 2006-2007, je crois. Et il y a exactement ça, là. C'est une image tirée du film Titanic. Et l'image monte et est remontée à l'envers. Et les gens font c'est Titanic Park, c'est super.
Puisque tu as pris la parole, Vincent, parle-nous un petit peu de ta catastrophe dans Cygnis. Elle est de quelle nature?
Alors, la catastrophe dans Cygnis, elle est d'une nature passée, puisqu'on n'est pas plongé au cœur de la catastrophe. C'est un monde post-apocalyptique. Donc, il y a eu à un moment donné dans l'histoire une catastrophe qui a détruit ou amené l'humanité en régression. On n'en parle pas spécialement. Et au fond, on s'intéresse plutôt à ce qui se passe après. Les facultés de résilience d'une société, la manière dont elle se réapproprie la mémoire et dont elle bâtit quelque chose de nouveau. Alors que, à contrario, dans Mimosa, on a aussi une catastrophe à un moment donné, avec une guerre civile, et ça permet d'avoir un peu de révéler les forces vives aussi d'une société. Donc pour moi, la catastrophe a un rôle de révélateur. Elle permet de mettre par contraste des choses en relief.
Jean-Pierre Andrevon, dans Le Monde Enfin, qu'est-ce qui se passe?
Oui, mais dans Le Monde Enfin, est-ce qu'on peut dire que c'est une catastrophe? Je ne sais pas, c'est une extinction de l'humanité qui se produit par étapes, mais qui est de toute façon, par sa nature même, lente, puisqu'il s'agit d'une épidémie. On peut dire que c'est l'Ebola ou que c'est le virus de l'Ebola qui mute de manière progressive, comme ça, de plus en plus grave. Et donc l'humanité s'éteint petit à petit. Il y a une première grande épidémie qui laisse peut-être une personne sur 10 survivre. Et après, le virus mute, alors là, c'est l'éradication quasiment totale, puisqu'il ne reste que trois couples, effectivement, à la fin. Alors, pourquoi j'ai écrit ça? Par une perversité pure, déjà, parce que je trouve que le monde est surpopulé, si je peux employer cette expression, de manière gravissime, et que ça ne s'arrange pas. On a 7 milliards, on sera 9 milliards peut-être en 2050, 2060, 2100 au maximum. Donc il y a trop de monde sur Terre. Et mon avis, vraiment, de citoyen, d'homme, c'est qu'il y a trop de monde et qu'on ne survivra pas si la population continue à s'accroître de cette façon-là. Quoi. Il y aura un syndrome Lemming, un suicide de masse, une guerre ou des guerres, enfin peu importe, ou une épidémie terminale ou plusieurs épidémies, bref. Avec toutes ces certitudes qui font froid dans le dos mais qui sont du domaine de la réalité, il ne faut pas se cacher. J'ai fait un premier récit, effectivement, qui s'appelle Le Monde Enfin, mais que j'ai écrit il y a très longtemps, puisqu'il a été publié en 75, où effectivement je trace le portrait d'une France, comme ça, où il reste quand même des petites communautés qui survivent, et l'histoire c'est celle d'un cavalier qui a décidé de mourir en regardant la mer, d'une manière très poétique, donc qui traverse le pays à cheval, comme ça. Et puis peu à peu, les années, les décennies passant, je me suis rendu compte que j'avais écrit des tas d'autres nouvelles, un petit peu sur le même thème, donc la fin de l'humanité, qui est mon thème favori en tout cas, qui est très riche en fait, puisqu'on peut imaginer la fin de l'humanité de multiples façons. Donc j'ai fini par réunir ces textes, il y avait des trous à boucher, donc j'ai écrit plusieurs autres textes qui s'intercalaient entre les nouvelles déjà écrites, pour arriver à ce gros bouquin de 500 pages, là, qui est séparé en 11 ou 12 textes, je crois, et qui suit la progression de cette épidémie jusqu'à ce qu'effectivement il ne reste plus que 6 couples. Bon, alors j'insiste pas sur le fait qu'il y a un pitch de l'histoire, il y a peut-être des extraterrestres dans le coup, mais ça, on ne s'en occupe pas puisque ce n'est pas le sujet de la table ronde d'aujourd'hui. Mais bref, voilà, donc c'est une catastrophe qui est lente et qui est presque heureuse, je dirais. Parce que moi j'ai un grand fantasme, qui est sans doute celui de pas mal de personnes, c'est de vivre dans un monde apaisé, de vivre dans un monde où il n'y a plus de pollution, où la nature reprend ses droits, submerge les villes, où les animaux sont en liberté, se sont échappés des eaux, tout ça. Donc c'est ça en fait que j'ai voulu, écrire, que j'ai voulu faire passer en fait pour ceux qui me liraient. Donc une sorte de, effectivement, de fin de monde heureuse. Et évidemment c'est une fin du monde biaisée parce que si... s'il ne reste plus que 0,00001 de l'humanité, il y a très peu de chances que moi je survive, quoi. Il y a 0,0001. Bon. Et là, évidemment, comme le livre est écrit par quelqu'un, on va dire que c'est moi qui écris le livre, donc c'est moi qui ai survécu, donc je triche un peu. Mais enfin, je crois que chacun de nous, chaque écrivain triche, parce qu'on écrit des choses qui ne se passent pas dans la réalité, qui ne nous arrivent pas à nous, en principe. Donc voilà, c'était la, ça pourrait s'appeler la grande tricherie, d'ailleurs, mon roman. Un titre à la Loki, si on veut, pour décrire cette catastrophe, qui, encore une fois, n'en est pas vraiment une. J'ai écrit d'autres nouvelles, d'autres récits, où la catastrophe est plus synthétique, plus brutale, quoi, où on peut mieux serrer les gens. Mais là, c'est une espèce de longue élégie, comme ça, heureuse. Oui, je n'ai pas d'autre mot.
Même question à Alain Grousset. Comment est-ce que tu as mis en scène des catastrophes dans tes livres
Voilà, les 10 façons d'assassiner un jeune, c'est une anthologie. Je m'ai demandé, Flammarion, de faire en direction des jeunes, en apportant quelques thèmes. Donc, j'ai apporté le thème de l'écologie, mais puis de dire bon, voilà, je vais réunir des auteurs, et chacun va se prendre une catastrophe. Donc, ça a été assez facile d'en trouver 10. Alors, après, il y a deux catégories d'auteurs. Il y a ceux qui aiment les humains, ceux qui les aiment pas. Donc, ceux qui les aiment pas les font disparaître. Ceux qui les aiment les font aussi disparaître. Mais il y a justement, Jean-Pierre. Quelques couples qui subsistent, et puis le nouvel Adam et Ève repartent vers une nouvelle forme de société. Voilà. Donc j'avais envie de raconter ça, enfin de réunir ça. Bon, j'avais déjà parlé d'écologie, c'était à cause des Brigades Vertes. Là, je mettais en scène avec un autre auteur, qui s'appelle Paco Porter, des étudiants, des potaches un peu, qui commencent à faire des blagues écologiques, et puis qui dérivent tout doucement. Plus sûrement vers la violence, au même titre que les brigades rouges. Voilà, ça a découlé. Enfin, se dire, c'est Flammarion, comme l'écologie avait bien marché, ce livre avait bien marché, m'a demandé de faire une suite. Voilà. Donc, Christophe en fait partie.
Voilà. Dans Sens Interdit, la catastrophe, elle amène une sorte de dictature derrière.
Oui, bon, on en parlait hier à un autre débat. Je pense vraiment que plus on va attendre. Plus on va aller vers le mur, plus on va arriver vers une écologie autoritaire et dictatoriale. C'est-à-dire que non seulement effectivement les gens peuvent passer à la violence au nom de l'écologie, mais en même temps l'écologie elle-même va appuyer un tel poids sur l'humanité. À ce moment-là, on sera peut-être payé en crédit d'énergie. Donc les plus pauvres auront juste de quoi se nourrir avec une nourriture infâme. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, il y aura des riches qui, eux, pourront encore éliminer leur jardin ou leur nain de jardin parce qu'ils ont le nombre de crédits suffisant pour le faire. Mais je pense que oui, on va vers une écologie vraiment totalitaire parce qu'il y a justement ce contrôle de naissance, par exemple. Le jour où ça arrivera, ça sera là parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Donc, effectivement, qui pourra faire des enfants toute la société sera là.
Jean-Pierre parlait presque d'un fantasme. Est-ce qu'il y a un plaisir à mettre en scène une grande catastrophe, une invasion, une guerre, parfois peut-être un plaisir presque enfantin ou pas?
Ah oui, totalement. C'est comme de construire patiemment un train électrique ou installer pendant une après-midi une dizaine de mini-soldats pour la bataille de Waterloo. Puis après, moi je faisais ça quand j'étais gamin, c'était mon grand kiff. Donc oui, c'est ça. C'est jubilatoire. Et puis, ce qui est marrant et intéressant, c'est que c'est un peu une sorte de retour rapide, comme on pourrait faire avec une VHS ou un DVD. C'est-à-dire qu'on a à la fois d'un point de vue humain, l'homme moderne va régresser très vite au médiéval, puis au sauvage, parce qu'il va bien falloir survivre, bouffer, et sauver sa peau. Et la société, c'est pareil. On parle d'une société moderne et en très peu de temps, on voit les institutions qui s'écroulent comme un château de cartes et la loi du plus fort à nouveau rejaillit, mais le tout avec des vestiges de modernité, donc ça donne un décor très, très poétique. C'est ça aussi que j'aime bien dans les films de zombies, par exemple, qui sont des films de catastrophe, ou les films de contagion. C'est plus que de voir comment de voir des zombies prendre des balles dans la tête avec la cervelle qui explose. C'est rigolo 5 minutes. Mais c'est intéressant de voir comment le corps social réagit, essaye comme un système immunitaire de se prémunir contre le danger, puis finalement s'écroule, s'effondre en accéléré. Il y a ça dans le remake du Romero qui se passe dans un supermarché Dawn of the Dead. C'est l'armée des morts, je crois, le remake des années 2000 par Zack Snyder.
Je crois que c'est Zombie, tout simplement.
C'est Zombie, je ne sais plus.
Le Romero.
Le Romero, oui, ouais, c'était ouais. Zombie. Et dans l'armée des morts, on démarre dans une banlieue, dans une chambre, avec une petite fille qui essaye de bouffer ses parents, je crois. Puis la caméra sort du pavillon et on voit déjà la banlieue pavillonnaire qui commence à s'enflammer. Il y a des accidents de voiture, des gens qui sortent en courant. Puis c'est un plan séquence, la caméra s'éloigne, et puis ça prend du champ et on voit la ville aussi avec des champignons de fumée. On comprend que la société est en train de partir en vrille. Et voilà. Moi j'aime bien ce genre de récit, j'aime bien les ravages, les Malville, les Jérémias d'Hermann, il y a un côté western, voilà, on passe de la société contemporaine au western, à l'ouest sauvage. Et j'aime bien ce télescopage entre le moderne, le contemporain et le primal.
C'est 5 jours, hein. Non mais il faut dire aux gens, c'est 5 jours d'électricité en moins et puis c'est fini, ça y est.
C'est vrai. Écoutez,
ah oui, il n'y a plus d'eau, plus de... Les gens qui habitent dans les immeubles, l'eau, ça peut être dur. Bon, les toilettes, n'en parlons pas, les congélateurs non plus, les ascenseurs, les congélateurs, enfin bon, c'est 5 jours. Le seul qui survit, c'est toute la technologie, hein, c'est le papy et la mamie qui ont toujours appui, qui ont la cheminée pour se chauffer et qui ont le garde-manger avec les poules et les lapins. Donc en fait, voilà, 5 jours, on nettoie toute la partie technologique que l'on vit.
Ouais, surtout 5 jours sans Internet, quoi. Ça, c'est un truc. Jean-Pierre Andrebon, vous avez écrit sur les zombies aussi.
J'ai écrit sur les zombies aussi.
Un horizon de cendres.
Oui, mais c'était plus une référence à tous les films que j'ai pu voir depuis 20 ans ou 30 ans sur les zombies, en essayant effectivement de traiter à ma manière, à travers effectivement toujours un couple qui essaye de survivre, un double couple, puisque le mari perd sa femme, il trouve une autre femme dans une espèce de caserne protégée provisoirement dans lequel il s'est enfermé. Mais c'est plus effectivement un goût pour un récit sur le récit, quoi, un récit sur des récits que j'ai déjà vus, lus et entendus 1000 fois, alors que les zombies ne me passionnent pas vraiment, parce que c'est des morts qui marchent et qui bouffent les autres, et puis c'est tout, quoi. Je déteste, par exemple, faire porter aux zombies comme ça des habits sociologiques, ce sont les autres, entre guillemets, ce sont les déshérités, les zombies c'est une métaphore de l'étranger, je trouve ça complètement stupide, quoi. Les zombies c'est des types qui veulent vous bouffer, point barre. Mais j'aimerais revenir sur cette histoire de catastrophe, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis que je suis là, depuis ça fait au moins 3e, 4e débat qui rôde sur l'écologie, sur la fin du monde, sur la catastrophe, ce qui n'est pas innocent. C'est parce qu'on y pense quand même, c'est qu'on sait que quelque part, elle est suspendue au-dessus de nos têtes. Et pourquoi nous? Parce qu'on est quand même des écrivains, on écrit des histoires de fiction, on n'est pas là pour vous faire une leçon écologique. Pourquoi on écrit là-dessus? C'est parce que d'une part, ça nous fait peur, puis d'autre part, ça nous fait plaisir, bien sûr. L'histoire du retour à une espèce, non pas de la sauvagerie, mais un médiévalisme, le western, qui n'a pas eu envie d'être un cow-boy, d'être Blueberry, de parcourir les plaines de l'Ouest à cheval, de faire régner la loi avec son six-coups, de s'abreuver à l'eau du puits, de chasser le bison, etc.
Et tout ça dans la brousse.
Et voilà. Et donc, on le craint, effectivement, on le craint, mais on en a envie. Si ça nous arrivait, je ne sais pas ce qui se passerait, on serait probablement terrifié, transi de peur, caché dans un trou, guettant l'électricité. Donc c'est la richesse, je crois, et l'envie qu'on a, c'est justement cette ambivalence. Quoi. On est un héros, on est un traître, on en a peur, on en a envie. Qu'est-ce qu'on fait? On est des écrivains, donc voilà. On écrit et puis on balance nos peurs, nos fantasmes à vous qui nous écoutez, qui écrivez peut-être certains d'entre vous. Et puis voilà, quoi. Mais c'est, encore une fois, c'est pas innocent parce que au-dessus de la tête, tout ça.
Tu étais assez d'accord, Vincent?
Moyennement, par rapport à ces idées de régression. En fait, on parle de faire table rase sur une partie de ce qu'on connaît. Et on s'imagine que si on n'avait plus l'électricité ou l'eau, on reviendrait à un monde antérieur, au Moyen-Âge, ou à l'Antiquité. Mais en fait, moi, j'ai pas du tout l'impression. Je vois pas comment, en 3 ans de manque d'électricité, on se mettrait à construire des châteaux, des cathédrales, et puis à écrire des sommes théologiques. C'est...
On n'a pas dit ça.
Non, non, mais on a beaucoup d'images du Moyen-Âge ou des époques antérieures, et l'impression que si on retirait à notre époque la technologie, on retournerait à ces époques antérieures. Et je crois qu'en fait, ces fantasmes de catastrophe, ces fantasmes d'annihilation, de disparition, de changement, ils visent à mettre en relief ce qui nous constitue, ce qui constitue notre société, ce vers quoi on voit, on va, on croit aller. Et en fait, en s'enracinant dans l'histoire, moi je vois une espèce de, ouais, de métaphore en creux, on essaie de comprendre nous où on va. Quand moi, j'aime bien prendre cet exemple, parce que j'aime beaucoup l'histoire antique. Quand moi je regarde des ruines romaines ou d'anciennes civilisations, j'essaye de me mettre à la place. Je vois un monde disparu, je vois un monde qui n'a pas forcément disparu sous une catastrophe, qui n'a pas forcément été balayé par un déluge, mais qui a été détruit par le temps qui passe, simplement, par les sociétés successives, par les changements de culture. Et le temps qui passe, c'est ça le grand dévoreur, à mon sens. Et si j'ai envie de me projeter dans le futur, dans un monde post-apocalyptique, par exemple, c'est parce que j'occupe cette position privilégiée où je pourrais contempler les ruines d'aujourd'hui, dans 2000 ans, ou dans 500 ans, peu importe. Et c'est ce vertige du temps, cette espèce d'horizon où on peut s'imaginer, se mettre en parallèle, essayer de comprendre quelque chose, moi qui m'intéresse. Et pas nécessairement un fantasme de revivre un genre médiéval ou cow-boy, même si ça peut être ludique, mais on se fait aussi des images de ce que peut être vraiment l'histoire. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir qu'est-ce qu'il y aurait vraiment.
Des contraintes journalières, qui sont se nourrir, de boire de l'eau qui n'est pas polluée, t'habiller au bout d'un moment, donc, comme il n'y a plus personne qui fait les jeans en Chine, il va falloir que tu élèves vite fait les moutons et que tu te mettes à tricoter pour te refaire un gilet. Enfin, il y a des contraintes qui font qu'on a l'impression qu'on ramène ça au Moyen-Âge, mais c'est des contraintes tout à fait qui pourraient être d'aujourd'hui, mais qui sont automatiques. Quoi. Donc il faut enlever toutes ces parts qu'on pense médiévales, mais qui sont simplement la réalité de vie des gens qui vivraient sans électricité au bout d'un moment.
Oui, il y en a encore sur Terre qui vivent sans électricité. En fait,
1 milliard de personnes.
Ouais, c'est... mais de nouveau, sur 5 ans peut-être, mais si c'est une société qui durait comme ça sur un siècle, qui devait vivre sur les ruines de notre monde, qui d'abord pillerait les supermarchés, après réapprendrait à faire de l'agriculture dans les parcs publics, ça serait même pas du tout un retour en arrière, puisqu'on a, même si on a, y a une personne sur 10 qui survit, les connaissances elles sont acquises, on les a. Donc qu'est-ce qui subsisterait de ces connaissances? Qu'est-ce qui disparaîtrait? Dans tous les cas, ce qui m'intéresse, c'est de voir vers quoi ça va et comment la société rapidement, sous le coup d'une révolution ou lentement, sous le coup d'évolutions successives, se transforme, crée d'autres normes, crée des nouvelles façons, de nouveaux rapports au monde, une nouvelle culture, une nouvelle civilisation en somme. Et ça, je trouve vraiment fascinant, parce que ça révèle ce que nous, on a, nos propres excès, nos propres manques. Et
ouais, t'as pas besoin, à ce moment-là, de démarrer ton roman avec une histoire apocalyptique. Ça peut être une nouvelle voie qu'on va trouver, parce qu'on est trop nombreux, comme l'avait dit Jean-Pierre, qu'il fallait autre chose.
Non, mais je crois qu'en fait, c'est un problème. Où il y a des gens, où il n'y en a pas. Où on meurt, ou on ne meurt pas. Si on ne meurt pas, la société continue. Tu parles de la société romaine, elle était très semblable à la nôtre. Il y avait des puissants, comme chez nous. Il y avait des esclaves, ça correspond aux pauvres ouvriers qui ne gagnent même pas le SMIC aujourd'hui. Il y avait des jeux de combat de gladiateurs, c'est Koh-Lanta, ce que vous voulez aujourd'hui. La société était très semblable, hein, L'Empire romain ne s'est pas effondré, c'est une idée reçue. L'Empire romain a continué, quoi. Et l'électricité... qu'est-ce qu'on peut faire l'électricité avec les moulins à eau, avec les moulins à air, qu'on appelle les éoliennes? On continue, il y a très peu de changements en fait, ils sont très superficiels, le changement. Le vrai changement, c'est encore une fois, on meurt ou on survit.
L'être humain est le même, on a toujours une nature humaine, mais je crois au contraire que ça n'a rien à voir. On peut voir des similitudes avec les Romains et nous, mais c'est des mondes différents, c'est des mondes qui n'ont rien à voir, c'est pas du tout la même expérience du monde culturellement, mais ça reste des êtres humains, ils vivent, ils meurent, ils pleurent. Mais je trouve qu'il n'y a rien de commun entre ce qu'il y a pu y avoir, ce qu'il y a maintenant et ce qu'il y aura dans 2000 ans. Ça, je trouve fascinant.
Ah ben, ce qu'il y aura dans 2000 ans, on n'en sait rien. Mais ce qu'il y a eu dans 2000 ans, je crois qu'on ne serait pas du tout dépaysés si on vivait sur l'Empire romain. Moi, je pense pas.
Non, mais si c'est pour rigoler.
Il n'y aurait pas l'Internet.
Il y avait des gens, Jérémy, à Rome, il y avait 150 000 personnes qui recevaient du blé gratuitement parce qu'ils n'avaient aucun moyen de subsistance. Et donc, de ce côté-là, on apportait énormément de blé à l'Égypte, simplement pour nourrir et avoir la paix sociale, exactement, qu'on a aujourd'hui. Donc,
le préfet Danone était mal barré quand il y avait des mauvaises récoltes. Donc, voilà. Il suffisait d'une année pour changer de gouvernement parce que...
Exactement.
Je reviens juste sur nos histoires de catastrophes. Vincent disait tout à l'heure la catastrophe comme révélateur et révélateur des personnages. C'est une notion qui vous parle dans...
C'est obligé parce que dès qu'on met quelqu'un dans une autre situation que sa vie quotidienne, c'est là qu'il se révèle. Mais dans sa propre vie, on a toujours des moments très forts qui peuvent être la mort de quelqu'un de très proche ou une notion de danger. Je ne sais pas, par exemple, face à un accident de circulation, il y a des gens qui voient les blessés puis qui sont absolument pétrifiés, qui ne bougent absolument pas. D'autres vont prendre en main à ce moment-là, vont donner des ordres aux autres, en disant fais attention, surveille la circulation là et tout. Vont prodiguer les premiers secours parce qu'ils ont cette formation et ça n'empêche pas qu'après ils peuvent être complètement bouleversés par ce qu'ils ont vécu, mais qu'ils réagissent. Donc face à un instant T de situation très particulière, effectivement c'est un révélateur de caractère entre ceux qui réagissent, ceux qui ne réagissent pas, ceux qui se suicident face à ça en disant c'est trop dur, je ne veux pas vivre dans ce monde-là. Voilà, c'est intéressant pour nous auteurs de montrer les différents personnages et leurs différents caractères.
C'est le principe hitchcockien de monsieur tout le monde placé dans des circonstances extraordinaires. Le film ou le roman catastrophe permet vraiment ce switch. On s'identifie très facilement à des gens pris dans une catastrophe. Et puis le révélateur de la société. Et moi, contrairement à toi, je m'intéresse plus à la catastrophe comme moment charnière que comme... je me projette pas dans le futur des décennies ou des siècles plus tard pour voir une société mutante. Et pareil, quand je fais des uchronies, je m'intéresse toujours à... Si je dois faire un truc sur Napoléon qui gagne Waterloo, je vais vraiment me focaliser sur Waterloo.
Ton point de regard est très proche du point de divergence.
Plus que de me projeter dans le futur pour voir comment a évolué la société. Si les Vikings avaient conquis l'Amérique, est-ce qu'on mangerait tous des Mac Odin ou des Mac Thor? C'est sûrement intéressant, mais c'est pas mon... Moi, c'est vraiment l'instantané. Quoi. Comment la société s'écroule, comment elle résiste, les personnages, qui se révèle un salaud, qui se révèle un héros, qui est entre les deux, ni blanc ni noir, c'est sur le moment.
Ben, Jean-Pierre Andrevon, dans Le Monde Enfin, il y a une réaction qui est assez intéressante à un moment, quand les survivants apprennent leur stérilité, il y a beaucoup de suicides, si j'ai bonne mémoire, c'est ça?
Oui, effectivement, oui. Il y a des suicides par diverses causes, effectivement, ceux qui ont perdu leurs proches ou qui ne se voient plus d'avenir. Les réactions des gens, c'est... Bon, je ne me considère pas vraiment comme un écrivain psychologique. Moi, c'est vrai que je m'attache plutôt à décrire de manière cinématographique ce qui se passe à l'extérieur, les décors en transformation, d'où ces villes qui peu à peu s'écroulent parce que les arbres poussent, les racines font écrouler les murs, les animaux envahissent tout ça. Mais les réactions, c'est amusant parce que dans une précédente table ronde, mais pas cette année, j'étais avec un auteur, là, je ne sais plus qui c'est, heureusement, parce que de toute façon, je ne peux pas le dénoncer, mais qui avait écrit un livre sur une catastrophe comme ça, et il disait, oui, mais moi j'ai consulté des sociologues, des psychologues, pour savoir quelle réaction ils auraient, si le monde s'écroulait, pour quelle réaction. Voilà, c'est l'aboricien, la fuite, la soumission, ou le combat, quoi. Il y a trois réactions principales, donc on peut les inventer très facilement, parce qu'on peut se dire, je ferais ci, je ferais ça, ou je ferais autre chose, sans savoir, effectivement, comme dit Christophe, ce qu'on ferait véritablement. Mais en fait, si on décrit tout ça, on n'invente pas, c'est parce qu'on le voit. Et les fins du monde, il y en a tous les jours ou presque. Je veux dire, un tremblement de terre où il y a 20 000 morts, 30 000 morts, 40 000 morts. Pour ceux qui sont là, qui reçoivent les pierres sur la tête, qui meurent, qui ont leurs enfants écrabouillés, c'est la fin du monde. Le tsunami d'il y a 4 ans, 5 ans, 250 000 morts, c'était une fin du monde, quoi, qui était réduite à une portion du territoire, mais c'était vraiment une fin du monde. Et ça, il y en a tous les jours, les coulées de boue, etc. Donc, ça nous est très facile de décrire ça, encore une fois, avec la bonne ou la mauvaise conscience, ce qui est exactement les mêmes, parce que de toute façon, on reste le cul sur sa chaise, derrière son ordinateur, et puis on écrit, quoi, voilà. C'est pour ça qu'il y a une certaine, je dirais, perversité innocente à décrire tout ça, dont on sait pertinemment que ça se passe, que ça s'est passé, que ça va se repasser, qu'il y a des gens qui vont mourir, qu'il y a des gens qui vont souffrir. Encore une fois, on n'est pas le bon Dieu, on n'est pas... voilà. On décrit ça de manière la plus ludique possible, parce que si on écrit, c'est pas pour désespérer les gens, c'est au contraire pour les empoigner au trip, pour qu'ils tournent les pages les unes après les autres, qu'ils disent qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va survivre, qu'est-ce qui va mourir. Donc finalement, c'est un espèce de jeu de rôle, quoi, hein. L'un qui meurt, l'autre qui survit. Voilà. C'est notre privilège à nos autres créateurs.
Il y a des avantages à la disparition de l'électricité, il n'y a plus de suicide devant la TGV, par exemple.
Il vaut mieux parler de l'électrocution. Ben, je me reconnais dans ce qui a été dit, dans ce que moi je qualifierais d'une esthétique de la ruine, une esthétique de vestige. Il y a une vraie poésie là-dedans, dans ces ruines entrelacées de forêts, qu'on peut voir encore hein, aujourd'hui finalement. Moi je trouve que c'est presque un décalque de l'expérience qu'on a de l'histoire et de l'archéologie qu'on replace dans le futur. C'est le même vertige.
Ça a toujours les peintures du XVIIIe siècle. Hubert Robert, par exemple, ouais. C'était ça. Il faisait des ruines romaines avec les arbres. Puis on a tous vu ça dans les petits villages des Hautes-Alpes, ou voilà, des villages abandonnés. C'est vrai que c'est très, très beau. Quoi. Il se trouve que moi, j'écris, mais je peins aussi mes toiles, c'est ça. C'est des villes. J'habite Grenoble, donc j'ai choisi des coins de Grenoble que je connais bien, avec les bâtiments écroulés, puis des arbres qui. Il n'y a rien de plus beau. Quoi. Voilà.
L'esthétique de la ruine.
La bonne distance par rapport à un événement réel, parce que tu as écrit sur le Titanic, est-ce que tu aurais pu écrire déjà sur le bateau Costa qui a échoué?
Alors, je n'écris pas sur le naufrage même du Titanic, c'est pas un remake du...
Mais tu vois, est-ce que tu pourrais le reprendre tout de suite? Quelle est la bonne distance? Par exemple, on parle du tsunami ou du tremblement de terre à Haïti qui est arrivé il y a 2-3 ans.
Je pourrais le reprendre tout de suite si je trouvais un angle d'attaque qui me motive, qui ne me paraisse pas putassier et qui me paraisse intéressant. Ouais, je pourrais les idées, je pourrais voir un reportage. Là, c'est un peu fait tilt, mais oui, ça me semble jouable. Enfin, je ne pose pas d'auto-censure à ce niveau-là.
Alain, c'est pareil par rapport à des événements réels hein.
Oui, non, il n'y a pas forcément. Bon, c'est vrai qu'il est intéressant de se servir d'une espèce d'inconscient collectif autour d'un événement. Donc là, il faut du temps un petit peu pour qu'il se mette en place. Et là, on peut en jouer, quoi. Donc c'est intéressant pour nous. Mais ça n'empêche pas, effectivement, de traiter en permanence et de digérer, je veux dire, à notre façon, les événements d'aujourd'hui. On est des auteurs de science-fiction, mais on vit exactement tout le monde à l'instant T. Et notre science-fiction n'est que le reflet d'un instant T aussi. Je veux dire, on n'écrit pas la science-fiction d'il y a 30 ans, et ce ne sera pas la science-fiction, ce sera pas la même. Donc c'est vraiment un regard à notre société. Et on a toujours ce côté un petit peu déformant que l'on a envie de mettre, plus que le curseur. Mais voilà, c'est la recette même de la science-fiction.
Non, j'ai vu lever le micro.
Moi j'ai eu récemment, pour parler d'actualité, en suivant l'affaire Mohamed Merah, j'ai eu une idée d'histoire. J'ai laissé ça un peu décanter, mais ouais, il peut y avoir des tilts comme ça, immédiats.
On a parlé beaucoup de catastrophes, et si on parlait de guerre maintenant, est-ce que c'est le même processus quand on met en scène une guerre, un conflit par rapport à un événement catastrophique? Toi qui as fait les deux, par exemple, ou Jean-Pierre?
Les deux. Moi, je fais partie d'une génération où on a grandi et vécu pendant la guerre froide, donc avec la peur d'une confrontation atomique qui arraserait la Terre, une bonne partie de la Terre. Donc il y a eu énormément et de livres, de romans, et de films, et d'ouvrages théoriques aussi qui ont couru là-dessus. Et moi, c'est vrai que une bonne part de ce que j'ai écrit, disons, dans les années 70, ça se passe juste avant ou pendant ou juste après une guerre atomique. Et ma toute première nouvelle, la première que j'ai écrite et qui a été publiée dans Fiction, le magazine Fiction, dans le numéro de mai 1968, comme le savent ceux qui connaissent bien ma bibliographie, c'est une nouvelle qui s'appelle La Réserve, où on voit des gens nus ou vêtus de peau de bête courir, chasser le lapin, comme ça, donc ils vivent, c'est un espèce de retour à l'âge de pierre. Donc déjà, dans mon tout premier texte, voilà, il y avait le cataclysme était là, quoi, j'avais envie d'en parler, parce qu'encore une fois, c'était quelque chose qui rôdait au-dessus de nos têtes. Alors maintenant, le spectre de la guerre atomique s'est un petit peu éloigné, c'est encore possible, hein, au Moyen-Orient, entre l'Inde et le Pakistan, en Corée du Nord, bref. Mais il s'est quand même déplacé vers les périls écologiques dont l'effet de serre est le plus voyant, ou en tout cas celui dont on a le plus à craindre, quoi. Mais est-ce que j'ai écrit vraiment des choses sur la guerre? Je n'ai pas l'impression, parce qu'on est tellement, on a tellement ces images, je veux dire, de la guerre, quoi, en fait, de la guerre de 39-45. Il suffit de voir la télévision, il y a constamment des films, des documents qui ressortent, qui sont toujours très intéressants, mais on en a tellement plein les yeux que c'est très difficile d'inventer une autre guerre, je veux dire une guerre du futur, parce que les guerres du futur, on retrouve les mêmes trucs, il y a toujours des chars, mais ils sont beaucoup plus gros, on tire des rayons laser au lieu de tirer des obus, mais on n'arrive pas à inventer en fait une autre guerre, à moins de retourner au Moyen-Âge, où on se bat à coups de massue, c'est vrai. Donc c'est peut-être moins intéressant, mais ça peut aussi, quoi. C'est aussi une catastrophe, mais qui est plus larvaire, je dirais. Hein. Il y a beaucoup de gens meurent à la guerre, c'est vrai. Il y en a qui survivent, hein, ceux qui ont survécu à 4 ans de la guerre de 14-18. C'était quand même une expérience que je ne souhaiterais pas, que je souhaiterais à personne, et qui est une fin du monde qui est constamment recommencée, jour après jour, avec les bombardements, l'assaut des barbelés ennemis, les tirs des mitrailleuses, on n'arrête chaque coup pas. Donc c'est plus, à la fois plus commun, si je peux dire, en mettant tous les guillemets que vous voulez, toutes les italiques que vous voulez, et plus difficile à décrire si on veut, si on se place dans le cadre d'écrire la science-fiction, et si on veut faire du neuf avec ça. Enfin, voilà un petit peu l'impression que j'ai, j'improvise, là, mais c'est pas facile, quoi.
Ouais, enfin, je pense que c'est pas facile parce qu'on n'a peut-être pas vécu de guerre, donc ça enlève une bonne possibilité de la part de témoignage. Je pense spécialement la guerre, si on n'a pas vécu, ça doit être très difficile d'en parler.
On n'a pas vécu Fukushima, on n'a pas vécu le tsunami.
Non, mais c'est spécial quand même la guerre, il y a vraiment d'autres enjeux identitaires aussi. Mais je pensais à un écrivain comme Joel Daman, justement, dans La guerre éternelle, je trouvais qu'il avait très bien revisité
la guerre. Il a fait la guerre du Vietnam.
Lui a fait la guerre du Vietnam, il a redigéré toute son expérience de la guerre, et puis il l'a métaphorisé dans de la SF, avec en plus ce que je trouvais vraiment très fort, c'est le rapport au temps, à la société, puisque dans La guerre éternelle, les personnages vont dans l'espace, se battent, ils voyagent très longtemps avec des différentiels de temps par rapport à la Terre, ils reviennent, les années qui sont passées sur Terre, et c'est exactement le même syndrome que le soldat qui revient au pays et puis qui voit son monde changer, ou est-ce que c'est son œil qui a changé? En tout cas, la métaphore, elle est hyper puissante. Et même par rapport à réinventer la guerre, il le fait aussi très bien. Tout à coup, ils se battent, ils reviennent à se battre avec des épées. Suivant cette vieille citation d'Einstein, c'est peut-être même pas lui. Ou alors c'est peut-être lui, il y a tellement de fausses citations d'Einstein. Mais on dit que la Troisième Guerre mondiale... C'est bien possible. Et il le fait au sens propre, où des gens ont des champs de stase qui empêchent les bombes d'exploser, les armes technologiques de fonctionner, et les mecs se battent avec des épées, avec des boucliers. Et je trouve ça, il a vachement bien fait. Moi, je me sentirais incapable de réinventer ça, parce que peut-être j'arriverais pas à métaphoriser ça de façon assez puissante, parce que je l'ai pas vécu, parce que c'est des choses que j'ai pas vraiment pu intégrer. Ou alors à moins qu'on travaille dessus, qu'on s'immerge et puis qu'on se traumatise en consommant ces matériaux de photos, de films et qu'on y arrive. Mais ça demande un...
Et en même temps, peut-être t'as pas vécu de guerre civile, alors tu en mets...
Non, mais elle est beaucoup plus proche du burlesque dans le cadre où tu passes de Mimosa, une guerre civile. Et au fond, mais je crois que j'étais bêtement inspiré par ce qui se passait en Libye au même moment. J'ai vu une guerre civile, j'étais abreuvé d'images par les médias. J'ai été consulté pas mal de blogs, j'ai regardé Al Jazeera tout le temps, et puis les Twitter des journalistes sur place. Et puis c'est un peu de ça qui a ressurgi, mais j'ai pas non plus réussi à en faire quelque chose d'absolument sérieux, parce que je l'ai pas vécu dans ma chair.
Alain, tu as mis en scène des guerres, tout du moins en cadre.
Oui, non, la guerre des livres n'a rien à voir avec une guerre conventionnelle. Ouais. Ce qui est tout bête, c'est la guerre, l'opposition du livre papier et du livre numérique. Poser ça dans un futur lointain où on sait plus quoi foutre des livres papier, donc on veut les détruire et il y a un conservateur qui arrive à persuader les autorités de nous mettre tous les livres de toute l'humanité sur une planète assez désertique pour avoir une conservation du monde. Et on va s'apercevoir qu'on va avoir besoin quand même du papier parce que malgré les infos numérisées, il manque quelques infos. Voilà, donc on va réussir à dénicher dans le papier.
Pareil pour toi, Christophe.
La guerre, moi oui, c'est vrai que j'ai fait pas mal de bouquins qui tournent autour du sujet. Bah, c'est un sujet très riche. Et pour un raconteur d'histoire, ce qui est super entre guillemets pratique, c'est que les questions de vie et de mort à chaque page. Quoi. Il y a une tension qui est permanente. Contrairement au récit catastrophe où il y a un peu la fatalité, la foudre qui tombe sur les humains et après les petites fourmis humaines se débrouillent comme elles peuvent. Là, il y a une question éthique dans la guerre qui est toujours un peu est-ce que la fin justifie les moyens, les dommages collatéraux, est-ce que c'est nécessaire? Et puis, à l'échelon individuel, une question éthique qui est comment rester, entre guillemets, clean dans un contexte abominable. Comment sauvegarder un semblant d'innocence, qui est en fait le thème du soldat Ryan. Le soldat Ryan, c'est pas du tout un film sur le débarquement. C'est le soldat Ryan, il est joué par Ben Affleck, je sais plus, Matt Damon. C'est le soldat complètement idéalisé, bon camarade, sympa, le brave petit américain élevé au maïs. Voilà, c'est une espèce d'angélisme. Et tout l'itinéraire, toute la quête des personnages qui sont censés aller le rechercher, de Tom Hanks et sa patrouille, c'est comment se comporter de manière éthique au milieu d'un chaos, d'un maelstrom. Comment rester humain au milieu de l'inhumain. Et c'est souvent ça, dans Platoon, c'est ça aussi, enfin, dans la plupart des grands films de guerre, qui sont des films anti-militaristes.
Et pour parler des citations, il y a aussi Scott Card qui disait qu'on ne peut pas vivre de grandes histoires sans avoir de grands drames qui précèdent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
On a plus tendance à parler comme les journalistes, hein, des trains qui n'arrivent pas à l'heure, des trains qui déraillent que des trains qui arrivent à l'heure. Hein, il faut du grain quand on fait du thriller, du suspense, il faut du grain à moudre dramatiquement. Donc, dans le cadre d'une utopie où les oiseaux chantent, gazouillent, l'herbe est verte et tout le monde s'entend bien, c'est difficile d'avoir une locomotive dramatique qui fait son chemin. Il y avait un bouquin, je crois, de Brian Aldiss, il racontait la terraformation de Mars, mais où tout se passait comme sur des roulettes. À chaque fois qu'un scientifique proposait une nouvelle étape, ça marchait. Les colons s'entendaient super bien, mais en fait, c'était chiant.
Les gens heureux n'ont pas d'histoire, donc c'est vrai, ça. Mais pour revenir à la guerre, c'est vrai que c'est très difficile d'en parler, d'une part, si on ne l'a pas vécu, mais d'autre part, comment la décrire, quoi, sans prendre trop de distance, la distance de celui, effectivement, qui n'a jamais fait la guerre. Sans échapper par l'humour, alors qu'il n'y a rien de plus horrible que la guerre. Moi, je reviens à la guerre de 14, qui est pour moi la guerre de 14-18, c'est celle que je préfère, chanter Brassens, quoi, parce que c'est vraiment d'une horreur épouvantable. Quoi. Et c'est en cela que c'est difficile. Et le livre de Haldeman, là, ce qui est intéressant, c'est pas tellement sur ce bac ou des pays ou tout, mais c'est pourquoi nous combattons, quoi, pourquoi. Et les gens qui ont fait la guerre de 14, il n'y a rien de plus absurde que la guerre de 14. Pourquoi on combattait? Personne ne le savait. On prenait une tranchée un jour, 15 000 morts, elle a été reprise le lendemain, 20 000 morts. La guerre a continué 4 ans. Pourquoi? Pour rien. C'était une espèce de machine qui tournait, qui broyait les humains. Et ça, c'est vrai que c'est le grand sujet, en fait. Pourquoi on se bat? En général, c'est pour rien.
Je pense que peut-être intéressant dans l'évolution de la guerre, c'est que justement, la guerre 14, c'est la boucherie absolue, on va prendre une colline, la main, la paix, et ainsi de suite, et on se fout des pertes. Aujourd'hui, on veut infliger des pertes, mais on veut...
C'est la théorie du zéro mort, la théorie américaine, zéro mort.
Voilà, et donc là, ça amène une autre vision de la guerre. Je pense que c'est ce côté-là qui serait peut-être intéressant de voir un peu plus loin, où d'un seul coup, cette guerre existe, dure pendant des années, mais exclusivement technologique, il n'y a aucun mort.
Je crois que c'est la Dick l'a fait dans la vérité avant-dernière, hein, les gens sont sous le sol, puis c'est les robots qui se battent à la surface, qui continuent à se battre pour rien. On a tout fait en fait en science-fiction. C'est pour ça que c'est dur de trouver des nouveaux sujets.
C'est la guerre propre, le concept de guerre propre. On arrive au bout, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Profitez-en, ils sont là, rien pour vous. Question.
La fin du monde vous a menti.
Battons-nous, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres grandes catastrophes que vous allez mettre en scène dans les prochains romans? Est-ce que vous avez des projets catastrophiques?
Non, je sais pas. J'ai fait une nouvelle récemment, là, qui c'est sur l'histoire du météore, qui est aussi très fascinante. Quoi. Le météore va nous tomber sur la tête, qu'est-ce qui va se passer? Où il va tomber d'ailleurs déjà? Alors c'est l'histoire effectivement d'un couple, encore une fois, qui attend chez lui, il voit le météore grossir dans le ciel de jour en jour, enfin voilà. Mais c'est facile, non, mais il y a eu de très très bons bouquins là-dessus, quoi. Je ne parle pas des films comme Armageddon ou Deep Impact, qui est encore bien meilleur, mais il y a eu de très bons romans.
Je pense que s'il y a un météore qui tombe, il y a beaucoup de gens qui la regarderont à la télé. Qui ne regarderont même pas le ciel, mais qui regarderont la télé sur le CD,
Ou alors ils le filmeront avec la Ripad.
C'est marrant, ça fait penser à un truc, c'était le bouquin d'Arthur C. Clarke, Rendez-vous avec Rama. En fait, il commençait avec la chute d'un météore qui détruit la région de Trieste. Du coup, on met tout un programme spatial d'observation de la ceinture d'astéroïdes pour repérer d'éventuels objets qui pourraient s'écraser. Et c'est ce qui permet de déceler le cylindre qui se rapproche, qui va traverser le système solaire et qui finalement déclenche toute l'histoire. Donc ça peut être aussi une amorce.
Bon, bah, je vous propose que notre catastrophe, ce soit la fin de cette conférence.
Vous allez pouvoir... Il y en aura d'autres.
Voilà, vous allez pouvoir retrouver tous les auteurs en dédicace, on les remercie. Et puis restez là, car la prochaine, on va justement parler de guerre à 15h. Ça s'appellera D'une guerre à l'autre, conflit passé et avenir. Merci à tous.
Merci.